بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. On va commencer une nouvelle série de cours inshallah avec Kitab al-Jami'. C'est le dernier chapitre dans le livre Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, donc, qui est une compilation de hadith, à peu près 1300 hadiths, de Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, qui est notamment l'auteur de Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari. Donc le dernier, c'est un livre qui compile des hadiths sur le fiqh, mais à la fin il a mis des chapitres sur le comportement. Donc il dit, et en fait nous on va lire l'explication des hadiths par le cheikh Abdullah al-Bassam. C'est un cheikh d'origine saoudienne, et qui était notamment un élève d'Abd al-Rahman al-Sa'di, et qui est décédé il y a quelques années, rahimahullah, et qui a occupé plusieurs postes dans l'enseignement, dans la da'wah. Donc c'est un des grands savants d'Arabie Saoudite. Donc il dit ici, مقدمة, هذا الكتاب جمع ستة أبواب من آداب النفس البشرية. Ils disent donc ce al-kitab, c'est-à-dire le, entre guillemets, le livre, c'est-à-dire la partie du livre Bulugh al-Maram qu'il a appelé al-Jami'. Regroupe six chapitres en fait, six sous-chapitres, qui concernent les politesses et les comportements de l'être humain. Ahaduha al-adab, le premier c'est sur la politesse. Athani al-birr wa-sila, le deuxième c'est sur la bonté et al-sila, c'est-à-dire les liens de parenté. Athalith al-zuhd wa-al-wara', la troisième c'est sur l'ascétisme et al-wara', c'est-à-dire la piété. Al-rabi' al-tarhib min masawi' al-akhlaq, la quatrième c'est sur les mauvais comportements à éviter. Al-khamis al-tarhib fi makari min akhlaq, cinquième c'est l'encouragement au bon comportement. Al-sadis al-dhikr wa ad-du'a, et le sixième c'est la mention d'Allah et l'invocation. Wa hadhihi al-abwab taduru ala tahdhib an-nafs wa iqamati as-suluk wa tashih al-manhaj wa sayati bayan kull bab fi makanihi insha'Allah ta'ala. Donc ce sont des chapitres qui parlent de l'éducation de l'âme. Donc on va commencer dans Babul Adab, le chapitre ou le sous-chapitre sur l'adab, c'est-à-dire la politesse. Donc il dit, à propos de l'adab, il dit l'adab بفتح الهمزة والدال مصدر أدب الرجل بكسر الدال وضمها أي صار أديبا في خلق أو علم. قال ابن حجر في الفتح الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وهو الأخذ بمكارم الأخلاق وهو الهدى الذي كمل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفته عائشة رضي الله عنها بقولها كان خلق القرآن رواه مسلم. Donc ici c'est une parole d'Ibn Hajar rahimahullah qui dit الأدب, c'est le fait d'utiliser ce qui est louable dans les paroles et dans les actes. Donc c'est le fait d'appliquer les bons comportements. Et c'est la guidée par laquelle Allah a complété notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a qualifié comme étant complet et parfait, quand il a dit Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes la'ala khuluqin azim, sur un grand comportement. C'est-à-dire tu es certes doté d'un grand comportement. Et Aïcha, elle a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant le comportement du prophète c'était le Coran dans Sahih Muslim. وهو النهج الذي يحاول أن يسير عليه أرباب القلوب وعلماء السير والسلوك إلى الله تعالى. Et c'est la voie sur laquelle essayent de cheminer les gens qui s'occupent du cœur, c'est-à-dire les savants des choses qui se passent dans le cœur et les savants du comportement. قال السفاريني في شرح منظومة الآداب أدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات وحفظ القلوب واستواء السريرة والعلانية. Là, il cite une parole de l'imam al-Safarini qui a dit « La politesse des gens de religion avec le fait d'avoir la science, c'est d'exercer l'âme et de ta'dib al-jawarih, d'éduquer ses membres, d'éduquer son corps et de s'efforcer à avoir une bonne nature et de préserver les limites d'Allah et de délaisser les désirs et d'éviter al-shubuhat, c'est-à-dire les doutes et les faux arguments et de protéger les cœurs, et que les choses secrètes et les choses publiques de la personne soient égales. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre ce qu'il montre aux gens et ce qui est son secret. Qala al-Ghazali, donc là il cite une parole d'Abu Hamid al-Ghazali, donc ça c'est dans le sens où il va prendre de al-Ghazali ce qui est bon. قال الغزالي رحمه الله الخلق الحسن صفة سيد المرسلين والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمخازي الفاضحة فحسن الخلق هو صورة الباطنة في الإنسان ولا تسكن النفس إلا بالمجاهدة. Donc il dit le bon comportement, c'est la caractéristique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que les mauvais comportements sont comme un poison qui tue la personne. Et le bon comportement, c'est comme la forme cachée, la forme intérieure, c'est-à-dire la sura, al-dhahira, c'est la forme qu'elle a la personne, son apparence, et il dit le comportement, c'est l'apparence intérieure de la personne. Mais l'âme ne peut se purifier qu'avec des efforts. وَمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْبَطَالَةِ اسْتَثْقَلَ الْمُجَاهَدَةَ وَالرِّيَاضَةَ وَالْإِشْتِغَالَ بِتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَخْلَاقَ لَا يَتَصَوَّرُ تَغْيِيرُهَا. Il dit mais celui qui est vaincu par l'insouciance et par le fait de ne rien faire, celui-là, le fait de combattre son œuvre, son âme et de l'exercer, ça va être dur pour lui. Et le fait de s'occuper, d'éduquer son âme et de la corriger, ça va être dur pour lui et ça va être lourd. Et il prétend que les comportements, on ne peut pas les changer. ونقول له لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ حسن خلقك. Nous disons à ce genre de personnes, si les comportements ne pouvaient pas changer, alors les conseils et les exhortations ne serviraient à rien, et le prophète صلى الله عليه وسلم n'aurait pas dit à معاذ بن جبل oh معاذ améliore ton comportement. والطاعات هي سقال القلوب وشفاؤها والمعاصي هي أدرانها وأمراضها واعتدال الأخلاق هو صحة النفس والميل عن الاعتدال سقم ومرض. Et les actes d'obéissance, c'est la pureté du cœur et le remède du cœur, alors que les désobéissances, c'est la saleté du cœur et la maladie du cœur. Donc le fait d'avoir un bon comportement, c'est comme la santé de l'âme, alors que le fait de pencher vis-à-vis de la droiture, c'est comme la maladie de l'âme. Donc là, ça c'est un genre de petite introduction. Maintenant, il va rentrer dans les hadiths. Donc c'est le premier hadith, c'est le hadith numéro 1249 dans Bulugh al-Maram. Il dit an Abi Hurayra radiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haqqul muslimi 'ala al-muslimi sitt idha laqaytahu fasallim 'alayhi wa idha da'aka fa'ajib wa idha istansahaka fansahu وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le droit du musulman sur le musulman ou les droits des musulmans sur le musulman sont au nombre de 6. Lorsque tu le rencontres, salue-le. Lorsqu'il t'appelle, réponds-lui. Lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Lorsqu'il éternue et loue Allah, alors dis-lui fashammithu, c'est-à-dire dis-lui yarhamukallah. Quand il tombe malade, visite-le, et quand il meurt, suis-le. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Donc là, il dit, en fait, à chaque fois, premièrement, il va parler de Darajatul Hadith, sauf si c'est dans le Bukhari et Muslim, c'est-à-dire l'authenticité du Hadith. Après, il va parler de Mufradat al-Hadith, c'est-à-dire les mots et le vocabulaire du Hadith. Donc ça, on va le passer, puisque je le fais déjà en traduisant. Et après, il dit Ma yukhadhu min al-Hadith, c'est-à-dire les leçons à tirer du Hadith. Donc il dit الدين الإسلامي دين المحبة والمودة والإخاء يحث عليها ويرغب فيها لذا فإنه شرع الأسباب التي تحقق هذه الغايات الشريفة. Il dit la religion de l'islam, c'est la religion de l'amour et de l'amour entre les gens et de la fraternité, et entraîne à ces comportements-là. Et donc il a légiféré les causes qui vont réaliser ces buts, ces nobles buts qui sont l'amour et la fraternité. Et parmi les plus importantes de ces causes, le fait de respecter les obligations sociales entre les membres de la société musulmane. Min ifsha'i salam, comme le fait de répandre le salam, le salut, wa ijabati ad-da'wa, le fait de répondre à l'invitation, wa nushi fil mashwara, et de bien conseiller quand on te le demande, c'est-à-dire dans les concertations, wa tashmiti al-'atis, et le fait de dire la doua à celui qui a éternué, wa 'iyadati al-marid wa tashyi'i al-janaza, et la visite du malade et le suivi du cortège funéraire. هذا الحديث الذي معنا أكد هذه الحقوق ونحن نعرضها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى. Donc il va parler de chacun de ces six droits. الأول السلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Donc à propos du salam, Allah dit: Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres jusqu'à ce que vous demandiez permission et que vous saluez les gens qui s'y trouvent. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Dans un autre verset, et lorsque vous rentrez dans des maisons, alors saluez vos propres personnes. سلموا أنفسكم. Pourquoi il dit saluez-vous vous-même? C'est parce que quand tu vas, ça c'est une parenthèse que je fais pour l'attraper, parce que je suis obligé pour la traduction, parce que le verset il dit saluez vos propres personnes. C'est parce que soit dans le sens où les musulmans ils sont comme un même corps, et donc quand tu salues un autre musulman, c'est comme si tu te salues toi-même, puisque vous ne faites qu'un, ou alors dans le sens où quand tu vas saluer, on va te répondre, donc c'est comme si tu t'étais salué toi-même. Donc saluez vos propres personnes d'un salut venant d'Allah qui est bon et béni. Et dans un autre verset, et lorsqu'on vous salue par un salut, alors saluez par meilleur que lui, ou renvoyez-le comme il a été fait. Rendez-le comme il a été fait. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Dans le hadith ici de صحيح مسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Vous n'entrerez au paradis que quand vous aurez la foi, et vous n'aurez la foi que quand vous vous entraînerez. Est-ce que je vous indiquerai une chose qui, si vous la faites, vous vous entraînerez? Répandez le salam entre vous. فَالتَّحِيَّةُ الْمُبَارَكَةُ الطَّيِّبَةُ جَعَلَهَا اللَّهُ رَابِطَةَ مَوَدَّةُ وَحُبُّ وَإِخَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْقَلْبِ وَالْقَلْبِ. Donc ce salut bon et béni, Allah l'a mis comme un lien d'amour et de fraternité entre le musulman et le musulman, et entre le cœur et entre les cœurs. لذا يحسن أن تؤتى بألفاظها ومعانيها الكاملة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est pour ça qu'il faut dire le salam de façon complète en disant السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est-à-dire il convient de faire ça. Et donc là on peut faire la parenthèse par rapport à notre contexte actuel, c'est que la plupart des gens ils prononcent mal salam. Soit ils disent السلام عليكم ساكم. Ça veut dire t'entends même pas ce que t'entends le ça et t'entends le koum à la fin. Ça, la plupart des gens ils font ça. Sakum, saikum, kusalam, kusalahtullah. Au lieu d'une dizaine de syllabes, il en reste plus que trois. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est-à-dire, le salam, c'est comme c'est une adoration, c'est quelque chose qui nous vient d'Allah. Allah, il a qualifié ce salam comme venant d'Allah Azzawajal. Il nous a été révélé par Allah. Donc, il faut le respecter en le disant correctement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال في الإقناع. Donc là ici c'est une parole qui est dans l'Iqna. C'est un livre sur l'école de l'imam Ahmed. Donc ça, c'est une parole de faqih de l'école Hanbalite Mais il ne va pas citer les preuves, c'est-à-dire c'est une parole un peu résumée sur différentes règles concernant le salut, sans qu'il y ait des preuves à l'appui, et les preuves elles existent dans les livres. Il dit qu'il a fait l'iqna' wa ibtida'u salami sunnatun wa min al-jama'ati sunnatu kifaya. Donc le fait de dire salam en premier, c'est une sunna, dans le sens ici ce qu'il veut dire c'est un acte préférable. Et si vous êtes un groupe, alors c'est sunna kifaya, c'est-à-dire c'est préférable pour l'un d'entre eux. Si l'un d'entre eux le fait, le groupe aura fait la sunna. ولو سلم على إنسان ثم لقيه عن قرب سنة أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر. Et si il salue une personne, il le rencontre un petit peu après, il lui est préférable et de la sunna de le resaluer une deuxième fois, même une troisième et même plus encore. Ça a été rapporté des compagnons notamment, que quand ils se séparaient ne serait-ce que par un arbre ou une pierre, ils se redisaient salam. ولا يترك السلام إذا كان على ظنه أن المسلم لا يرد عليه. Et il ne laisse pas le salam parce qu'il pense que le musulman ne va pas lui répondre. C'est-à-dire, même s'il pense que la personne, il est pratiquement sûr qu'il ne va pas lui répondre, il ne délaisse pas le salam pour autant. Et il y a des affaires qui disent que quand la personne ne te rend pas le salam, ce sont les anges qui te le rendent à sa place. Donc le jugement du salam, du fait de rendre le salam, c'est une obligation à chaque personne si on la salue, et c'est une obligation kifaya quand on est en groupe, c'est-à-dire si on est en groupe, si l'un d'entre nous rend le salut, alors l'obligation elle a été faite pour le groupe. وَتُزَادُ الْوَاوُ فِي رَدِّ السَّلَامِ وُجُوبًا. Il dit il faut dire wa alaykum salam, c'est obligatoire de dire le waw. Wa yukrahu an yusallima ala imra'atin ajnabiyyatin illa an takuna ajuzan aw bariza. Et il est déconseillé de dire le salam à une femme étrangère sauf si c'est une vieille femme. Wa yukrahu ala talin wa dhakirin wa mu'abbin wa muhaddithin wa khatibin wa wa'idin wa nahwihim ala man yasma'u lahum. Et il est déconseillé de dire le salam à quelqu'un qui est en train de lire le Coran, de faire le rappel d'Allah, de faire la talbiya, ou quelqu'un qui récite les hadiths aux gens, ou quelqu'un qui fait un sermon ou une exhortation, et celui qui les écoute. Bon, ça, bien sûr, c'est des paroles de faqih comme ça, sans citer de preuves. Et al-hajar, c'est le fait d'esquiver, d'éviter quelqu'un, et qui est légiféré dans certains cas dans la religion, ça s'arrête par as-salam. C'est-à-dire pour arrêter quand tu fais le hajar à quelqu'un, à cause d'une dispute par exemple, pendant 3 jours, pour arrêter ce qu'on appelle le hajar, c'est-à-dire le fait de l'éviter, tu dis assalam. Le fait de lui dire à nouveau assalamu alaykum, ça arrête le hajar. Et il est légiféré de saluer lorsqu'on part. Donc ça, notamment celui qui veut vérifier ça, parce qu'il y a beaucoup de frères, je ne sais pas pourquoi, ils disent, ouais, quand tu pars, il ne faut pas te dire salam. Quand ils sont ensemble, donc bien sûr, ils se disent salam alaikum. Ils discutent, après ils partent, et ils ne veulent pas dire salam. Ils considèrent que c'est une innovation et tout. Alors que quand on regarde dans... Donc, alhamdoulilah, le livre, il est facile d'accès. C'est la Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani. Et au début, vers les 50 premières pages, je ne sais plus exactement quel hadith, il y a un hadith qui... où il est mentionné la question du salut, notamment le fait de serrer la main et tout. Et Cheikh, il en déduit, dans un des hadiths, il dit comme déduction d'un des hadiths, qu'il est une sunna de dire salam quand on se quitte. Ensuite, il dit ici, « وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُمْ » Donc, il est légiféré aussi de dire salam quand il rentre chez lui. « أَوْ بَيْتًا خَالِيًا » Ou alors une maison vide, comme il a été rapporté notamment d'Abdullah ibn Omar. أو مسجدا ou la mosquée, أو مسجدا خاليا ou une mosquée vide. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Quand il rentre dans une maison vide ou une mosquée vide, il dit السلام علينا, donc le salut sur nous, وعلى عباد الله الصالحين, et sur les serviteurs d'Allah pieux. Ça a été rapporté d'Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما. ويجزئ السلام عليكم في الرد وعليكم السلام وكماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والجواب مثله. ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة. Il dit, il est interdit de serrer la main à la jeune femme étrangère. وتسن مصافحة الرجل للرجل والمرأة للمرأة. ولا ينزع ينزع يده من يد مصافحه حتى ينزعها إلا لحاجة. Et il est légiféré de serrer la main, que l'homme serre la main à l'homme, et que les femmes entre elles se serrent la main aussi, et il n'enlève pas la main de celui à qui il la serre, tant que l'autre ne l'enlève pas en premier. C'est-à-dire ça fait partie de la sunna et des comportements du prophète. Quand il serrait la main à quelqu'un, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas lui le premier qui enlevait sa main. Il gardait la main de l'autre dans sa main jusqu'à ce que ce soit l'autre qui l'enlève. وَلَا بَأْسَ بِالْمُعَانَقَةِ وَتَقْبِيلِ الرَّأْسِ وَالْيَدِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَنَحْوِهِمْ. Et il n'y a pas de mal à faire la collade. Donc la collade, ça a été rapporté des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'embrasser la tête ou la main des gens de science et des gens de religion et des gens semblables. الثاني إذا دعاك فأجبه. Le deuxième c'est quand il t'appelle ou quand il t'invite, réponds-lui. قال تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. Dans le verset Allah dit lorsque vous êtes appelé ou lorsque vous êtes invité, rentrez, c'est-à-dire rentrez dans la maison, et quand vous avez mangé, dispersez-vous. وجاء في سنن أبي داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. Et dans les sunan d'Abi Daoud, il y a le hadith qui dit celui qui a été invité et qui ne répond pas a désobéi à Allah et à son messager. Et dans Sahih Muslim, lorsque l'un d'entre vous invite son frère, qu'il réponde. Toujours dans Sahih Muslim, lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas de noces, qu'il réponde. قال في الإقناع. Donc là, il cite encore l'إقناع, le livre de l'école Hanbali. والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عينه داعي مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب في اليوم الأول. Donc il dit le fait de répondre au repas de mariage est obligatoire quand il est invité par un musulman qu'il l'a désigné en particulier, c'est-à-dire c'est pas une invitation générale. Il dit pas tu diras au frère de venir, il dit un tel je t'invite, ou tu dis un tel que je l'invite. Là donc il lui est obligatoire de répondre à l'invitation si c'est un musulman qu'il n'a pas le droit de faire le, à qui il ne peut pas faire la hajar, c'est-à-dire il n'a pas le droit de l'éviter et dont les moyens de subsistance sont bons, sont licites. C'est-à-dire il a pas, on sait qu'il ne gagne pas son argent dans le haram. Et lors du premier jour du mariage. Et c'est un droit de celui qui a invité la personne. Et ce droit, il tombe s'il te pardonne et s'il te laisse. C'est-à-dire si, par exemple, tu lui dis j'ai une excuse, je ne peux pas venir, etc. Et il te dit, ben, à ce moment-là, c'est bon, c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire il a cédé son droit. C'est plus obligatoire. وإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا بحفظ مال أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو كان أجيرا ولم يستأذن المستأجر لم تجب الإجابة. Il dit si celui qui a été invité est malade, ou alors il soigne un malade, ou alors il est occupé par le fait de garder et de surveiller des biens, ou alors il y a une chaleur qui l'empêche de venir, ou un froid intense, ou alors une pluie qui mouille les vêtements, ou alors il est salarié et il n'a pas demandé la permission à son patron, alors il n'est pas obligatoire de répondre. والإجابة في دعوة العرس واجبة كما تقدم وفيما عداها من الدعوات المباحة مندوبة. Donc le fait de répondre à l'invitation de mariage c'est obligatoire, et dans les autres invitations c'est simplement préférable et recommandé. الثالث إذا استنصحك فانصحه. La troisième c'est lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. Allah dit les croyants ne sont que des frères. وقال عن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنا لكم ناصح أمين. Et il a dit à propos des messagers, il disait à leur peuple je suis pour vous un conseiller sincère. وجاء في البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Et dans les deux صحيح, جرير il a dit j'ai prêté serment au prophète صلى الله عليه وسلم sur le fait d'accomplir la salat, de payer la zakat et de donner d'être sincère ou d'être de bons conseils envers tout musulman. Bah, ils peuvent les écrire les questions, mais ça, ça va être un peu compliqué. Si je connais, inchallah. C'est-à-dire, en fait, les questions, inchallah, je répondrai que ce dont je suis sûr de l'avoir lu d'Achir et je me souviens la référence et la preuve et tout. Sinon, je sais pas, sinon ça sert à rien parce que ma parole elle vaut pas de. Hein? Ouais, mais il y a peut-être des questions qui sont pas graves au point de les demander à Cheikh Abdallah, quoi. Il y a peut-être des questions qui sont simples, qui sont connues. Ouais, voilà, ouais. Inch'Allah, celles qu'on connaît pas, on les reportera pour quand on est avec les chouyours. Donc, il dit « وَجَاءَ فِي الْبُخَارِي وَمُسْلِمِينَ عَنْ أَنَسْ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Et dans les deux sahih, le hadith qui dit « L'un d'entre vous n'a pas la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ تَمِيمِ الدَّارِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. Et dans l'autre hadith que vous connaissez qui dit « La religion c'est النصيحة. النصيحة, on peut traduire par la sincérité ou le conseil. Et ils ont dit pour qui? Au messager d'Allah. Il a dit pour Allah, pour son livre, pour son messager et pour les chefs des musulmans et leur ammatihim, le commun des musulmans. فالنصيحة هي عماد الدين وقوامه. Donc النصيحة, le bon conseil, c'est le pilier de la religion. والنصيحة لعامة المسلمين هي إرشادهم لصالحهم في آخرتهم ودنياهم. Et le bon conseil envers le commun des musulmans, c'est de les conseiller et de les orienter vers ce qui est bon pour eux ici-bas et dans l'au-delà. وَإِعَانَتُهُمْ عَلَيْهَا. Et de les aider à ces choses. وَسَطْرُ عَوْرَاتِهِمْ. Et de cacher leurs secrets. وَسَدُّ خَلَّاتِهِمْ. Et de subvenir à, c'est-à-dire سَدُّ خَلَّاتِهِمْ, quand ils ont un problème, de leur venir en aide. وَدَفْعُ الْمَضَرِّ عَنْهُمْ وَجَلْبُ الْمَنَافِعِ لَهُمْ. Et de repousser de le mal et ce qui leur est nuisible et d'essayer de leur rapporter ce qui leur est bénéfique. وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالرِّفْقٍ وَإِخْلَاصٍ. Et le fait de leur recommander le bien et de leur interdire le blâmable avec douceur et sincérité. وَالشَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ وَتَوْقِيرُ كَبِيرِهِمْ وَرَحْمَةُ صَغِيرِهِمْ. Et الشَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ, c'est-à-dire de se soucier d'eux et de respecter les personnes âgées d'entre eux et d'être clément envers les petits d'entre eux. وَتَخَوُّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Et de les exhorter par des bonnes exhortations. وَتَرْكُ غِشِّهِمْ وَحَسَدِهِمْ. De ne pas les tromper et les jalouser. وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ. Et d'aimer pour eux ce qu'il aime pour lui-même parmi les bonnes choses. وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ. Et il déteste pour eux ce qu'il déteste pour lui-même parmi les mauvaises choses. وَالنَّصِيحَةُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهَا مَنْ يَكْفِي سَقَطَتْ عَنْ غَيْرِهِ. Et le conseil, c'est une obligation communautaire. فَرْضُ كِفَايَةٍ. Quand une personne l'a fait, alors l'obligation tombe vis-à-vis du groupe. وهي لازمة على قدر الطاقة. Et elle est obligatoire selon la capacité. ومعنى الحديث أنه إذا طلب منك النصيحة فيجب عليك أن تنصح له. وأما بدون طلب فلا يجب, ولكن النصيحة من أخلاق الإسلام الفاضلة فالدل على الخير كفاعله. Et le hadith, sa signification, c'est que lorsqu'il te demande un conseil, il t'est obligatoire de le conseiller. Mais s'il ne te demande pas, ça n'est pas obligatoire, mais ça fait partie des bons comportements de l'islam. Et celui qui indique un bien, il est comme celui qui le fait. الرابع إذا عطس فحمد الله فشمته. صفة ذلك كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Donc la quatrième, c'est de lui dire يرحمك الله quand il éternue, comme c'est cité dans صحيح البخاري, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise Alhamdulillah, et que son frère lui dise Yarhamukallah, c'est-à-dire qu'Allah te fasse miséricorde, et qu'il lui réponde encore qu'Allah te guide et qu'il améliore ta situation. Qala an-Nawawi, innahu muttafaqun ala istihbabihi. An-Nawawi, rahimahullah, a dit, c'est quelque chose sur lequel, c'est-à-dire tout le monde est d'accord sur le fait que c'est préférable. Qala fil iqna' wa idha atisa khammara wajahu. Et dans l'Iqna', toujours ce livre de l'école Hanbalite, il dit, lorsqu'il éternue, il couvre son visage et ne regarde pas, ne tourne pas sa tête à droite à gauche, et il remercie Allah. وتشميته فرض كفاية ويكره أن يشمت من لم يحمد الله. Et le fait de lui dire يرحمك الله, c'est une obligation communautaire, c'est-à-dire si une personne le fait, c'est suffisant, et il est déconseillé de le dire à celui qui n'a pas dit Alhamdulillah, puisque dans le hadith il a bien dit que tu dis يرحمك الله que lorsque la personne a dit Alhamdulillah. ولكن يعلم الصغير أن يحمد الله. Mais il faut enseigner aux petits, au jeune qui ne sait pas, il faut lui dire qu'il faut lui enseigner à dire Alhamdulillah quand il éternue. Wa hadithi ahdin bil islam wa nahwihi. Wa hadithi ahdin bil islam wa nahwihi. Et aussi aux nouveaux convertis. Et nous, en ce qui nous concerne dans notre contexte, c'est même pas que le petit et le converti à qui il faut l'apprendre, mais tout le commun des musulmans, la plupart, ils ne le connaissent pas non plus. ويشمت الرجل الرجل والمرأة العجوز والبارزة ولا يشمت الشاب ولا تشمته. Il dit donc l'homme le fait pour l'homme et pour la vieille femme, mais il ne le fait pas pour une jeune femme. فإن عطس ثانيا وثالثا شمته ورابعا دعا له بالعافية. Et s'il éternue deux fois, trois fois, jusqu'à trois fois il lui dit يرحمك الله, et la quatrième il invoque pour qu'Allah le guérisse. الخامس إذا مرض فعده. La cinquième c'est lorsqu'il est malade tu le visites. فقد جاء في جامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة حديث حسن. Et donc dans le hadith ici il dit, il n'y a pas de musulman qui visite un musulman le matin sans que 70 000 anges prient sur lui jusqu'au soir. Prient sur lui, sallallahu alayhi, ici ça veut dire il demande à Allah de le pardonner. Et s'il le visite au soir, il y a 70 000 qui prient sur lui jusqu'au matin. Il a dit hadith hasan at-Tirmidhi. قال الشيخ تقي الدين الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض وجزم بها البخاري وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مندوبة ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. الشيخ تقي الدين c'est-à-dire Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, si on en suit le texte on en comprend qu'il est obligatoire de visiter le malade, et c'est ce qu'a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Mais la majorité des fuqaha disent que c'est simplement préférable. Et l'imam Nawawi l'a dit que c'était un consensus. C'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire. Wa mafhum al-hadith anna haqq al-iyadati lil-muslim, walakinahu alayhi salatu wa salam, aada yahoudiyan kama fi al-Bukhari, wa aada ammahu Aba Talib kama fi al-Sahihayn. Donc il dit, on pourrait comprendre du hadith que le droit de visite, c'est pour le musulman, mais il se trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également visité un juif pendant sa maladie, et il a visité aussi son oncle Abu Talib, qui n'était pas musulman, et ça c'est cité dans les deux sahih. قال في الإقناع ويسأله عن حاله وينفس في أجله بما يطيب نفسه ولا يطيل الجلوس ولا يطيل الجلوس عنده ويغب بها. Donc toujours dans l'إقناع il dit, il lui demande comment il va, et il essaye de, il lui dit des paroles qu'il le relaxe et il ne reste pas trop longtemps auprès de lui. Donc ça fait partie des comportements, c'est-à-dire la visite du malade elle a son comportement aussi, c'est-à-dire c'est pas tu viens et puis tu fais une tête d'enterrement, tu mesquine, il n'y a pas le moral, et toi tu le rabaisse encore plus, aussi bien que quand tu repars il a envie de se suicider. C'est pas ça, toi normalement t'es là c'est pour justement, tu dois essayer de lui remonter le moral, il faut lui parler de tout ce qui penche vers l'espoir. C'est-à-dire, tu viens pas puis tu lui dis, ouais, subhanallah, on est plein de péchés, on va aller en enfer. C'est des paroles vraies, elles ont leur utilité dans certains contextes, mais le malade, c'est plus, il faut plus le faire penser au paradis, à lui dire que Allah, inshallah, il va le purifier de ses péchés grâce à cette maladie, qu'à la fin, il y aura un bien, et que si Allah, il éprouve la personne, c'est parce qu'il l'aime, etc. Ça va lui remonter le moral, et c'est des vraies paroles d'exhortation. Et aussi, il reste pas trop longtemps auprès de lui. Sauf si, si c'est quelqu'un, au contraire, s'il aime que tu restes, alors tu restes, parce que des fois ça peut être un ami, et il aimerait bien que tu restes même 5 heures avec lui. Il ne veut pas rester seul, par exemple, dans la chambre d'hôpital ou quoi. Mais sinon, de façon générale, il ne faut pas rester trop longtemps. À tel point qu'à la fin, il en a marre que tu sois là, et il n'ose pas te le dire, il ne sait pas comment se débarrasser de toi. C'est pas comme ça. Parce que le malade, il est déjà dans une souffrance, c'est lourd, donc il ne faut pas alourdir encore la visite. Il faut que ce soit léger. Ou alors, par exemple, tu viens à 2, 3, 4, et puis vous vous mettez à parler. Des fois même, vous vous mettez à vous disputer ou à débattre devant le malade. Lui, il n'y a rien à voir, ça y est, il est là, mesquine. Il vous regarde en train de vous disputer ou de débattre. Ou alors les femmes aussi. Elles se mettent à parler, t'as vu une telle et tout, ce qu'elle a fait et tout. Et la malade, mesquine, elle est là en train de souffrir, elle a mal à la tête. Ça, c'est pas partie des bons comportements. وجاء في البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Et dans les deux sahih, Aïcha elle raconte que le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait des doigts pour des gens de sa famille, donc il les essuyait avec sa main droite, c'est-à-dire il pose sa main droite à l'endroit qui est malade, et il disait « Oh Allah, Seigneur ou souverain des gens, fais partir le mal, guéris car c'est toi le guérisseur, Shafi, ça fait partie des noms d'Allah, il n'y a de guérisseur que toi, guéris d'une guérison après laquelle il n'y a pas de maladie. » As-Sadis, donc c'est-à-dire ici il mentionne ça dans le sens où tu peux le faire au malade, ça c'est une des sunnans. Il y a d'autres du'as à faire, et de façon générale même, une chose à savoir c'est qu'il c'est-à-dire, alhamdoulilah, la sunna nous a montré différents actes à faire. Mais celui qui connaît pas la dua à dire, il connaît pas le geste à faire, de façon générale, simplement, il fait de dua. Il peut lui dire, Allah yashfik, j'espère qu'Allah va te guérir, etc. Simplement. La sixième chose, idha mata fattabi'hu, quand il meurt, suis-le. C'est-à-dire, suis son cortège. فقد جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل ومن قيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. Dans le hadith ici qui est dans les deux صحيح, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui assiste à la janaza, c'est-à-dire au convoi funéraire, jusqu'à ce qu'on prie sur le mort, il aura un qirat. Et s'il suit la janaza jusqu'à ce qu'il soit enterré, il en aura deux. Et on lui a dit, c'est quoi le qirat? Il a dit, c'est comme une grande montagne. C'est-à-dire tout ça en hasanat. قال في الإقناع واتباع الجنازة سنة وهو حق للميت وحق لأهله. Donc dans l'Iqna, il a dit, c'est quelque chose de recommandé, mais c'est un droit du mort. Et c'est un droit aussi de la famille du mort. قال الأجري من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم. Donc الأجري رحمه الله dit il fait partie du bien qu'il suive le cortège, le convoi funéraire de son frère musulman pour répondre à son droit, au droit de son frère.
ويكره رفع الصوت والصيحة عند رفعها ولو بقراءة أو ذكر ويسن أن يكون متخشعا متفكرا في حاله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت ويكره التبسم والضحك أشد منه والتحدث بأمر الدنيا. Et il est déconseillé d'élever la voix pendant les convois funéraires ou de crier et d'élever la voix en lisant le Coran ou en faisant le rappel. Et il est légiféré d'être mutakhashi', c'est-à-dire d'avoir une apparence humiliée et humble et craintive d'Allah Azza wa Jal, et de penser à sa situation, et que ce soit pour toi une exhortation, c'est-à-dire de réfléchir à la mort de cette personne, et que tu réfléchisses sur la mort. Et il est déconseillé de sourire, ou de rire, ou de raconter des histoires, ou de parler des choses de dunya, parce que ça fait partie, notamment ça peut blesser notamment la famille du mort. T'imagines le cousin du mort, il est là, et toi t'es en train de parler du match de foot d'hier soir, ou de rigoler, ça se fait pas, ça peut blesser un autre musulman. Ensuite, on passe au hadith suivant. Donc d'où il tire tout ça, c'est-à-dire, vous remarquez, il cite les paroles de l'Iqna', il dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Bien sûr, il y a des preuves, alhamdoulilah, qui disent un peu tout ça, mais là, c'est résumé, c'est-à-dire que c'est un livre de fiqh, et il vous dit en résumé ce qu'il faut faire. Et ça résume, alhamdoulilah, notre explication du hadith. Mais notamment, quand il dit, il est légiféré que tu sois humble et que tu réfléchisses, c'est parce que, notamment, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit quand il nous a conseillé la visite des tombes ? Il a dit, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ. Parce qu'elle vous rappelle l'au-delà. Donc là c'est pareil, le convoi funéraire il va te rappeler l'au-delà et il faut qu'il te rappelle la mort. Donc le hadith d'ensuite, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Ici le hadith il dit, regardez à celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous. C'est plus à même que vous ne méprisiez, c'est plus à même que vous ne méprisiez pas le bienfait d'Allah sur vous. Ça, c'est dans le Bukhari et Muslim.
Ça fait combien de temps là qu'on fait quoi ?
Donc il dit ce qu'on tire du hadith. At-tuma'ninatu al-qalbiyyatu la tahsul illa bi husni an-nazar wal-qana'atu bima qassama Allah lil-'abd. Donc là, le repos du cœur et la sérénité n'arrive que quand la personne elle regarde husni an-nazar, c'est-à-dire elle réfléchit correctement et qu'elle est contente de ce qu'Allah lui a donné. Al-qana'a, qana'a, c'est-à-dire de te contenter de ce qu'Allah t'a donné comme part. Fa'idha qanna'a nafsahu wa alhama shu'urahu bi ni'ami Allah ta'ala 'alayhi hasalat lahu rahatun nafsiyyah wa tuma'ninatun qalbiyyah wa radiya bima qasama Allah lahu. فلا تطمح نفسه في أمور الدنيا إلا من هم أعلى منه ولا تمدد عيناه إلى من هم فوقه فيها. Il dit, lorsque tu contentes ton âme, c'est-à-dire tu te forces à être content et satisfait de ce qu'Allah t'a donné, et que tu essaies de rappeler à ton âme et de te rendre compte, des bienfaits d'Allah sur toi, là tu vas avoir le repos de l'âme et la sérénité du cœur. Et tu vas être satisfait de ce qu'Allah t'a, entre guillemets, distribué. C'est-à-dire la part d'Allah qu'Allah t'a accordée, ça va être suffisant pour toi et tu seras content de ça et satisfait. Et ton âme, elle ne va pas commencer à chercher à ceux qui sont au-dessus de toi. C'est-à-dire, j'aimerais bien être comme un tel et comme un tel. Et tu vas être, c'est-à-dire, tu vas être tranquille. Et tu ne vas pas détourner ton regard vers les gens qui sont plus riches que toi. وإذا فعل ذلك حصل له راحة قلب وطيب نفس وهناء عيش. Et s'il fait ça, donc il aura le repos du cœur et il aura son âme طيب نفس, c'est-à-dire il sera bien, il aura le moral entre guillemets, il aura une vie tranquille. وإلا فإنه مهما حصل ومهما زادت أموره الدنيوية فإنه سيجد من هو أحظ منه فلا يزال في شقاء قلب وتعب ضمير وإنهاك بدن وله وَغَفْلَةٍ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ لِحَيَاتِهِ الْبَاقِيَةِ وَسَعَادَتِهِ الدَّائِمَةِ. Et s'il ne fait pas ça, alors, quoi qu'il en soit de ce qu'il puisse acquérir, et même s'il s'enrichit beaucoup, et même, c'est-à-dire même si ses richesses d'ici-bas elles augmentent, il trouvera toujours quelqu'un qui en a plus que lui. Et donc, il sera toujours malheureux, son cœur il sera toujours malheureux, et il sera fatigué, et il va se fatiguer, il va se distraire de la vie future. Et il va plus préparer à la vie, à la vraie vie, qui est la vie éternelle et la vie de l'au-delà. Ce qui veut dire ici, c'est que si la personne elle commence à regarder, au lieu de regarder les gens qui sont en dessous d'elle et de se dire Alhamdulillah, moi j'ai ce qu'il faut et je suis content de ce qu'Allah m'a donné, même s'il n'a pas beaucoup, s'il commence à regarder au-dessus, et surtout nous dans nos pays, les gens, l'argent ailleurs, partout, si tu commences à regarder au-dessus de toi, tu vois, toi tu as une 205, ton voisin il a la Mercedes. Toi, tu as un appartement, ton frère, il y a une maison, etc. Et si tu regardes ces gens-là, et tu commences à considérer ça, là, tu vas te fatiguer. Au lieu de penser à ta religion, et à ta progression dans la religion, tu vas dire, moi, ma 205, vas-y, faut que je travaille plus, faut que je mette de côté, jusqu'à j'arrive à 406. Ou alors, j'ai un appart, bah vas-y, je vais aller faire, il faut que j'achète une maison. Peut-être ça va même te faire tomber dans le haram. Ça va te distraire, tu ne vas plus te concentrer sur ta priorité, normalement c'est de te préparer pour la vie future. Alors que si tu regardes ceux qui sont en dessous de toi, toi peut-être t'as une 205, mais ton voisin n'a pas de voiture. Tu te dis, alhamdoulilah, j'ai une 205, c'est une ni'ma, c'est magnifique, j'ai une voiture, j'ai un véhicule pour me déplacer. Là, t'es bien, et tu te reposes, et tu peux commencer à te concentrer sur les vraies priorités, sur les choses qui sont vraiment essentielles. Ensuite, il dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam arshada ummatahu ila tariq al-qana'a, wa dallahum ala manhaj al-rida, fa'amarahum an yanzuru fi amri dunyahum ila man huwa asfala minhum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a guidé et orienté sa communauté au chemin du contentement et de la satisfaction. Et donc il leur a ordonné qu'ils regardent toujours en ce qui concerne les choses d'ici-bas à celui qui est en dessous d'eux et qui a moins d'eux. فَإِنَّ الْعَبْدَ مَهْمَ افْتَقَرَ فَسَيَجِدُ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ مِنْهُ. Puisque l'être humain, quoi qu'il soit, quelque puisse être sa situation, et sa pauvreté, il va toujours trouver quelqu'un qui est plus pauvre que lui. وَمَهْمَا مَرِضَ فَسَيَرَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ مَرَضًا. Et quelle que soit sa maladie, il trouvera toujours quelqu'un qui est plus malade que lui. وَإِذَا كَانَ ذَا عَاهَةٍ فَسَيَجِدُ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ عَاهَةً وَأَشَدُّ بَلَاءً. Et quel que soit son malheur et son épreuve, il va toujours trouver quelqu'un qui a un malheur ou une épreuve pire que lui. فَإِذَا أَمْعَنَ النَّظَرَ فسيجد أن الله تعالى فضله على كثير ممن خلق تفضيلا. Et donc s'il regarde bien et observe bien, il va trouver qu'Allah il l'a favorisé par rapport à beaucoup de gens. وهذه النظرة الحكيمة ستريح قلبه وستسعد نفسه. Et ce regard, cette façon de penser qui est sage, va reposer son cœur et va le rendre heureux. وتزيده إيمانا بربه. Elle va augmenter sa foi en Allah, wa shukran lahu ala ni'amih, et sa reconnaissance envers les bienfaits d'Allah, wa sabran ala mabtalahu, et la patience vis-à-vis des épreuves d'Allah, ibtira ma'in d'Allah, tout ça en cherchant la satisfaction d'Allah. Ça me rappelle, donc je vous fais une parenthèse, quand j'étais étudiant à Médine, c'est-à-dire nous en France, les gens ils ont beaucoup tendance à se plaindre, ils se plaignent, soit parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou alors depuis qu'il a laissé pousser sa barbe, il ne trouve plus de travail, je sais pas, des trucs comme ça, des petites difficultés. Ou alors on est en France, c'est dur, je sais pas, j'ai remarqué, c'est que les jeunes, ils sont beaux qu'à se plaindre. Quand j'étais à Médine, et quand une personne, elle voyage, toi t'es en Égypte, t'as dû voir aussi, il faut regarder autour de toi, et là tu te dis, je suis pas au paradis, mais je suis dans une ni'ma incroyable. Tu vois des gens, par exemple, ils sont en Afrique, j'avais des copains, ils partagent la même chambre que moi, et l'été, quand ils rentrent au Gabon, il sait même pas où dormir. Parce que sa mère, elle est veuve, et elle a 10 enfants, et ils ont un plat de riz dans la journée pour nourrir les 10. Donc lui, il peut pas manger avec eux, sinon les petits, ils ont plus rien à manger, alors ils s'incrustent à droite, à gauche. Ils partagent la même chambre que moi. Et ils ne trouvent même pas où dormir l'été, subhanallah. Et parce que là-bas, il n'y a pas le RMI, il n'y a pas les allocations, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a rien. Et quand il est là-bas, quand il est toute l'année en Arabie Saoudite, l'été, les chiites, ils viennent voir sa mère et ils lui disent, dis à ton fils qui travaille avec nous, parce que c'était un étudiant, mashallah, talentueux, dis à ton fils qui travaille avec nous, on va te donner, t'auras des millions. Et c'est vrai que les chiites en Afrique centrale, ils viennent du Liban et d'Iran. Ils dépensent énormément d'argent dans la da'wah. C'est sûr que si tu marches avec eux, tu n'as même plus besoin de penser à ta dunya. Et Meskine, pendant 9 mois où il était à Médine, les chiites, ils allaient voir sa mère, ils disaient, ouais, dis à ton fils qu'il marche avec nous, on te paye la maison, on te paye tout, quoi. T'oublies ta pauvreté. Regardez, moi je voyais ça autour de moi, et moi quand je rentre l'été, je suis là, tranquille, je vois les frères autour de moi, le pire, celui qui ne travaille pas, bah, il touche une allocation. Moi, on mange, on est habillé, on dort sous un toit, on a tout ce qu'il faut. Ou alors je voyais des gens, par exemple, ils sont dans des pays, il y en a, ils rentraient même pas chez eux l'été carrément. Je dis, bah pourquoi tu rentres pas? Il dit, bah si je rentre, je sais pas, peut-être je vais aller en prison, parce qu'ils vont voir que sur mon visa, je suis étudiant à Médine. Ou alors il y en a, par exemple, ils étaient des tout petits pays près de la Tchétchénie, ça c'était mes voisins. C'était des Européens, des musulmans d'origine, donc. Et ils me disaient, nous, quand on rentre l'été dans notre pays, on ne sait pas si en septembre on revient pour le semestre suivant. Parce que peut-être les Russes, ils nous attrapent, ils nous envoient à Moscou, en prison, et là, il te reste 6 mois, 1 an à vivre maximum. Soit tu te fais tuer, soit tu meurs d'une maladie en prison. Des maladies de... que en France, toi, t'as jamais entendu parler, quoi. Et la prison là-bas, c'est 500 dans une cellule. Et les autres qui sont avec toi, c'est pas des musulmans, c'est des koufards, donc ils te font la misère, etc. C'est-à-dire tous des cas comme ça. J'avais aussi un copain indonésien. Une fois, il reçoit une lettre, une nouvelle, comme quoi l'école où il a appris l'islam, elle s'est fait brûler par des chrétiens et ils sont tous fait massacrer. Le directeur et tous les élèves. Dans une petite île, parce que les chrétiens ils sont en minorité en Indonésie, mais une petite île donc à majorité chrétienne, et ils ont massacré tout le monde. Et là-bas, vous savez comment c'est. Vous avez déjà vu les reportages, quand c'est un massacre, c'est la machette, c'est... Genre, ils attrapent les têtes, ils les portent pour rigoler et tout ça. Comme ça, ils leur ont fait. Et lui est là, et puis le lendemain, il repart à l'école. Plus sérieux que moi, je pouvais être en retard et tout, lui est jamais en retard. Donc, c'est-à-dire, il faut... Ce hadith-là, quand tu le lis comme ça, mais c'est une grande leçon. Si tu l'appliques dans ta vie, wallah, tu vas toujours être tranquille. Parce que vraiment, nous, on est bon, en Occident, on se plaint beaucoup. Mais wallah, si tu voyages, tu fais un peu plus de 5000 km, tu vas voir des trucs, tu te dis, subhanallah al-azim, je suis riche, je suis un fils de prince en fait. Mais on se rend pas compte. Tant que t'es pas parti, tant que t'as pas à regarder, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Ça, tu le vois pas. Ensuite, il dit ici, أَمَنْ نَظَرُ فِي الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ. Quant à ce qui concerne la religion et les actes d'adoration, فَيَنْبَرِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُمْ أَعْلَى مِنْ. Alors, il faut regarder à ceux qui sont au-dessus de lui. وَأَنْ يَعْتَبِرَ نَفْسَهُ مِنَ الْمُقَصِّرِينَ. Et qu'il se considère parmi ceux qui n'en font pas assez. وَأَنْ يَرْبِطَهُمْ عَلَى سَبْقِهِمْ. Et qu'il les envie, il envie les gens pieux et ceux qui les ont devancés, il les envie pour sabq, c'est-à-dire justement parce qu'ils ont devancé les autres. وَيَجِدَّ فِي اللَّحَاقِ بِهِمْ. Et qu'ils fassent des efforts pour les rejoindre. قَالَ تَعَالَى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Comme il est dit dans le Coran, empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur équivaut aux cieux et à la terre qui a été préparé pour les pieux. وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dans un autre verset, il dit ceux-là s'empressaient de faire les bonnes œuvres et étaient les premiers à les faire. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Et dans l'autre verset, il dit c'est en cela que les gens doivent rentrer en compétition. C'est-à-dire le khayr.
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
Dans صحيح مسلم, le hadith dit le croyant qui est fort est meilleur et préféré auprès d'Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a du bien. احرص على ما ينفعك, sois assidu à ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah. ولا تعجز, et ne sois pas un incapable.
وجاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره.
Et dans les deux صحيح, le hadith dit l'enfer a été entouré par les désirs alors que le paradis a été entouré par les choses détestables, c'est-à-dire les choses que l'âme elle déteste, les efforts, le combat de l'âme, etc. Mais les questions pour voir. Ah, il n'y a pas de questions. Bon, on va compléter une heure. Allez, comme ça. Troisième hadith.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
Dans ce hadith, un homme des compagnons, un Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, dit j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de al-bir. Al-bir, donc c'est un mot assez vaste qui veut dire en gros le bien ou la piété, et al-ithm, le péché. Il a dit al-bir, donc le bien, c'est le bon comportement, et le péché, c'est ce qui bouge dans ton âme, ce qui bouge, pardon, dans ta poitrine, c'est-à-dire ce qui te perturbe dans ta poitrine, et que tu détesterais que les gens le voient. Ça, c'est dans Sahih Muslim.
ما يؤخذ من الحديث دوك سو كوتير دو حديث الحديث يشتمل على تفسير لفظين البر والإثم وهذا معناهما دوك لو حديث contient l'explication de deux mots البر et الإثم دوك لو بيان et le péché البر قال ابن رجب البر يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار وكالمرض والفقر وعلى الطاعات كالصبر على لقاء العدو لا يسيت من بعض إن رجب الحنبلي رحمه الله كدي البر est un mot qui englobe toutes les obéissances internes, batina, c'est-à-dire du cœur, comme le fait de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, et aussi les obéissances externes, c'est-à-dire extérieures du corps, comme le fait de dépenser les biens dans ce qu'Allah aime, le fait d'accomplir la salat, de donner la zakat, de répondre, de tenir ses promesses et de respecter ses pactes, de patienter à la maladie, à la pauvreté, et toutes les obéissances, c'est-à-dire patienter vis-à-vis des obéissances, et patienter lors de la rencontre avec l'ennemi. Donc ce qui veut dire ici, al-bir, c'est comme l'iman en fait, c'est un synonyme. Al-bir, l'islam, al-taqwa, l'iman, tout ça, ça englobe toute la religion en fait. C'est des mots qui sont un peu synonymes. On peut les traduire par le bien, la piété, la foi. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها. Et donc la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith contient et englobe toutes ces caractéristiques. لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك على خلق عظيم. Puisque le bon comportement, on peut vouloir dire par le bon comportement le fait d'adopter les comportements de la loi islamique et les politesses qu'Allah a légiférées par lesquelles il a vanté les croyants, notamment lorsqu'il a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es certes doté d'un grand comportement. Donc c'est-à-dire même husn al-khuluq, en fait ça englobe pas seulement les politesses et le bon comportement, c'est plus vaste. Ça, on peut rentrer dedans, même les actes d'adoration, ça rentre dans le bon comportement, puisque c'est adopter les comportements de la loi islamique. قالت عائشة كان خلقه القرآن يعني تأدب بآدابه فيعمل بأوامره ويتجنب نواهيه فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقهم. عائشة disait à propos du prophète صلى الله عليه وسلم son comportement était le Coran, c'est-à-dire il avait les comportements indiqués dans le Coran, il applique les ordres du Coran et il évite les interdictions du Coran. Donc le fait d'appliquer le Coran, c'est devenu comme une nature chez lui, qui ne se distingue plus de lui. Et voilà le meilleur et le plus noble des comportements. Et il a été dit, la religion tout entière, c'est le comportement. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on continue. Ça, quelle heure, l'Asr?
Attends. On va dans... à 4h15, Inch'Allah, dans une demi-heure.